France Info.
Bonsoir. Deux passeports diplomatiques, un téléphone crypté et un faux document à la une des informés de France Info. Les nouvelles auditions au Sénat dans l'affaire Benalla ont réservé leur lot de révélations et ce n'est pas fini. Les LBD, les lanceurs de balles de défense des forces de l'ordre en question, face au trop grand nombre de blessés chez les Gilets jaunes, le patron de la police nationale rappelle la règle dans une note interne. Un débat dans le débat national, les 80 km/h, on peut faire quelque chose de plus intelligent, a lancé Emmanuel Macron hier devant les maires. Va-t-on vers une limitation de la vitesse à la carte? Le chef de l'État a-t-il brisé la glace dans ce conflit des Gilets jaunes? Il est sans doute trop tôt pour le dire. Il y a de nouveau un parfum de campagne dans l'air. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Audrey Goutard.
Bonsoir.
Et bienvenue, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info. Vous me rendrez mon stylo, s'il vous plaît, Audrey.
Oui, absolument.
Merci.
Je pensais que ça passerait.
Avec nous également ce soir, bonsoir à vous, Pascal Tournier.
Honneur aux dames. Hein.
Rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire La Vie, oui, honneur aux dames, c'est la moindre des choses. À mes côtés également, notre partenaire des informés, Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir, Jean-Sébastien, et bienvenue. Cofondateur et directeur d'Atlantico.fr. Et également invité ce soir, bonsoir Julien Bisson.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1 Hebdo et de la revue Américaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Il se passe toujours quelque chose du côté de chez Alexandre Benalla. Les trois auditions au plus haut niveau de l'État, il faut le dire, qui se sont déroulées cet après-midi au Sénat, ont livré leur lot de surprises. La première, c'est le canard enchaîné qui l'avait révélé hier. Alexandre Benalla n'avait pas restitué, après son licenciement, le téléphone Théorème crypté dont il disposait à l'Élysée. Ça, c'est une première chose. Patrick Strada, le directeur de cabinet du président de la République, première auditionnée aujourd'hui, a parlé de dysfonctionnement et a révélé que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron avait utilisé une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, entendu à son tour, a affirmé que ses services étaient dans l'impossibilité de désactiver les passeports en question en dépit d'échanges dès octobre avec le Quai d'Orsay.
Dans le cas de M. Benalla, le ministère de l'Intérieur a effectivement entendu parler de la situation professionnelle de M. Benalla et dès le 30 juillet a débranché, je reprends mon terme évoqué tout à l'heure, les deux passeports de M. Benalla. Donc ils ont perdu, et là nous savons faire, ils ont perdu immédiatement, dès le 30 juillet, leur capacité d'usage. Mais M. Benalla ne les avait pas restitués. Et il n'en a restitué qu'un des deux, le 11 janvier, et nous avons, via son avocat, et nous avons immédiatement envoyé une lettre en recommandé à son avocat pour lui dire que c'était bien qu'il nous en ait restitué un. On l'avait sollicité à plusieurs reprises, hein, mais qu'il en manquait un second.
Audrey Goutard, je ne sais pas quelle question vous posez après un tel extrait. Qu'est-ce que cela vous fait de voir le ministre de l'Intérieur? Il parlait de Patrick Strada auparavant de dysfonctionnement et soudain on voit ce personnage très important dans le dispositif se perdre dans des explications très techniques, très fouillées. Quelle impression cela donne ce soir?
Surtout, j'imagine les échanges de mails pendant, donc ça dure du 8 novembre au 26 décembre, les échanges de mails entre les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, l'Élysée, où tout le monde se renvoie la patate chaude, personne ne veut prendre la responsabilité de quoi que ce soit, et où finalement le ministère de l'Intérieur les fonctionnaires en tout cas, donnent la solution en disant il y a qu'à le déclarer volé et comme ça marchera. Et en fait, finalement, ce qu'explique de façon difficile le ministre, c'est que finalement, c'était une décision politique à prendre. C'était de dire, on décide de saisir ces passeports, il n'a plus le droit de les avoir, etc. Et effectivement, l'Élysée a essayé de passer ça au ministère de l'Intérieur en demandant aux fonctionnaires de faire un boulot pour lequel ils ne sont pas du tout désignés.
Ouais, Jean-Sébastien Ferjou, on va écouter dans un instant également Jean-Yves Le Drian. Mais Alexandre Benalla avait obtenu un passeport de service qu'il avait sollicité par une note dactylographiée en tête du chef de cabinet de l'Élysée. Qu'est-ce que vous inspire ce récit, au fond?
C'est vrai que c'est perturbant d'entendre le directeur de cabinet de président de la République finalement reconnaître presque benoîtement qu'il en découvre tous les jours sur cet individu, alors que nous sommes maintenant à la mi-janvier, que les questions concernant Alexandre Benalla se posent depuis plus de 6 mois. On pourrait imaginer qu'ils n'en apprennent plus tous les jours, mais qu'ils sachent quand même tout ce qu'il y a à savoir. De la même manière, quand Christophe Castaner dit « on a entendu parler des... » On a l'impression que c'est nous, en fait, que c'est comme si nous, on s'intéressait de loin à l'affaire Benalla. Donc après, ça ne veut pas forcément dire que pour autant, derrière, il y a une véritable affaire d'État, mais ça fait quand même incroyablement mauvais genre.
Un peu léger, non, peut-être.
Ça fait pied-niquer,
sur, sur le mode de fonctionnement de l'Élysée. Et puis, il y a un dernier élément qui reste troublant, c'est que comment Alexandre Benalla, ce personnage dont Monsieur Strozza a l'air de considérer qu'il est finalement tombé du ciel, enfin, et pas dans un bon sens, comment est-il arrivé dans l'entourage d'Emmanuel Macron? Parce que, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? N'importe qui est prié de partir, on continue à entretenir des relations avec la personne en question, et ça se gère, alors, c'est même plus une question de décision politique, je comprends ce que disent autres.
Merci la presse. Oui, parce que d'une certaine manière, on a le sentiment que soit le ministre de l'Intérieur, Monsieur Strozza, Monsieur Jean-Yves Le Drian, en tout cas ceux qui sont démissionnés aujourd'hui, découvrent en fait, en tout cas, se mettent à essayer de comprendre ce qui peut se passer grâce aux révélations qui ont été faites dans la presse, que ce soit aussi bien, on peut les citer, Mediapart, Le Canard enchaîné aujourd'hui. Donc voilà, on peut
finalement,
la presse a son boulot.
C'est salutaire finalement. On va vous entendre, Julien Buisson, rassurez-vous, mais Audrey Gouttard, c'est salutaire, comme le dit à l'instant Pascal Tournier.
C'est salutaire, mais ça démontre quand même qu'il y en a un qui avait très très bien compris le système, c'est Benalla. Comment on se procurait le téléphone crypté, Alors lui, il avait très très bien compris les circuits du système, et qu'en face, effectivement, il y a ce côté un peu pied nickelé. Je pense pas non plus effectivement qu'il s'agisse d'un complot politique et qu'il y ait grand chose à chercher derrière tout ça, mais juste des fonctionnaires, enfin, ou des hauts fonctionnaires qui semblent tomber de la lune. Ça fait un peu
à moins qu'il ne soit contraint de jouer un peu aux imbéciles, parce
le
que précisément, il y a une relation entre le président de la République et Alexandre Benalla qui les gêne. Et qu'ils se sont sentis en quelque sorte empêchés peut-être de mener à bien leur mission parce qu'ils n'osaient pas déranger cette relation importante aux yeux du président de la République.
Nous allons prendre un petit peu de recul, comme nous le faisons, sur cette affaire. Julien Buisson, vous allez avoir la parole dans un instant, mais tout d'abord, à 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Le ministre de l'économie demande ce soir la convocation d'un conseil d'administration du groupe Renault dans les tout prochains jours. Bruno Le Maire confirme que la France a bien demandé la nomination d'un remplaçant à Carlos Ghosn, toujours PDG. Il est incarcéré depuis le 19 novembre au Japon, jour de son interpellation pour malversation financière dans le pays. Comment Alexandre Benalla a-t-il pu bénéficier d'un passeport de service, document permettant de voyager sans demander de visa? Selon Patrick Strozza, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, qui faisait partie des personnes auditionnées cet après-midi au Sénat, il y a eu des dysfonctionnements. Il s'agissait de faire la lumière sur les agissements d'Alexandre Benalla depuis son licenciement de l'Élysée. Un passeur et 15 migrants, dont des enfants, arrêtés la nuit dernière à Annecy. Ils se trouvaient à bord d'une fourgonnette siglée comme un véhicule professionnel. La camionnette a été interceptée par la brigade anticriminalité. Au mondial de handball, Nicolas Karabatic de retour parmi les Bleus. Il rejoindra l'équipe de France pour son match demain face à la Russie et signera au passage sa 300e sélection. Il va remplacer Cédric Sorindo, blessé hier et atteint d'une lésion musculaire au mollet.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors, il y a un acteur dont la parole est plutôt rare et qui est venu apporter d'autres précisions, je vous le disais, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères en personne, on l'écoute.
Une situation justifiant une invalidation de tels documents n'avait pas de précédent. Il s'en est suivi un dialogue entre mes services et ceux du ministère de l'Intérieur. Et le bureau des visas et des passeports diplomatiques a notifié par écrit, le 8 novembre, la demande d'invalidation. Il y a eu des échanges d'abord entre services, puis une démarche écrite. Et cette demande a été reconfirmée le 19 décembre.
Alors, Julien Bisson, ces ministres, les plus gradés du gouvernement, Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian, on a vu le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strada, qui se défendent avec un agenda d'une complexité inouïe. Sont-ils coupables, pardon pour cet adjectif, mais d'une certaine forme de négligence?
Il y a un petit peu d'amateurisme, en tout cas. Mais pour reprendre l'analogie de la bande dessinée, on parlait des péniclés. Là, Alexandre Benalla, lui, là, c'est plutôt le sparadrap du capitaine Haddock. C'est-à-dire, on essaie de s'en débarrasser, et puis là, il reste toujours collé. Ou alors, peut-être encore un autre personnage. Pensez au colonel Ulrich dans Blake et Mortimer. Donc, à la fin de chaque épisode, on croit que c'est terminé. Et en fait, dans chaque nouvel épisode, il revient par la fenêtre. Et il me semble qu'il y a un petit peu d'Ulrich en ce moment dans Benalla.
Alors, si mes notes sont les bonnes, hein, la commission des lois du Sénat.
Vous seriez aussi mal organisé que
non, mais depuis l'été dernier,
pas y croire, Jean-François.
A conduit, j'ai compté 28 auditions, vous y ajoutez, c'est les 3 audiences d'aujourd'hui, et celle à venir d'Alexandre Benalla lui-même. Ce sera lundi, et du gendarme de réserve Vincent Crase, c'est lundi prochain. Donc est-ce que ça n'est pas un petit peu excessif tout de même, Pascal Tournier?
Je serais curieuse de voir un peu ce que va dire Alexandre Benalla, parce que dans le côté un peu rebondissement, bande dessinée, série télé, même peut-être aussi, on voit bien qu'il y a quand même une nouveauté, c'est qu'il y a un peu un bras de fer par médias interposés ou par commission interposée entre Benalla et l'Élysée. Ça, c'est un fait nouveau. Le fait de dire qu'il a produit des faux pour éventuellement avoir ses passeports. On se souvient, à Noël, il y avait aussi cet échange entre par médias interposés, en disant j'ai écrit tant de SMS, mais non, finalement, il y en a écrit moins. Donc, il y a un côté presque, moi je trouve aussi, série télé. Donc après, est-ce qu'on en fait trop ou pas? Il est quand même question des services de l'État, donc de leur fonctionnement. C'est quand même un sujet important.
Jean-Sébastien Ferjou, une question quand même. Les sénateurs, au passage, ils ont été un petit peu floués. Parce que là, ils recommencent des auditions, ils découvrent eux aussi qu'ils n'ont pas eu la vraie version au mois de septembre dernier.
Ce qui montre les limites d'ailleurs des commissions d'enquête parlementaires à la française. On peut se poser la question de comment se serait déroulée une affaire Benalla face à un parlement qui fonctionne et qui exerce ses missions de contrôle, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit au Royaume-Uni, quelle que soit la nature de l'affaire, parce qu'effectivement, ça n'est pas forcément la plus grave affaire du siècle. Mais au-delà du bras de fer qu'évoquait Pascal tout à l'heure, il y a peut-être aussi quelque chose d'un peu plus perturbant à quoi on assiste, et notamment en écoutant le directeur de cabinet du président de la République cet après-midi, la manière dont il parle là d'Alexandre Benalla, en disant justement ce personnage, on en découvre tous les jours sur lui, c'était quand même un très proche du président de la République. Et en quelque sorte, c'est comme s'il y avait deux Élysées aussi, peut-être un Élysée qui se rebelle un peu comme Gérard Collomb avait pu le faire pendant l'été, contre ce que lui a imposé Emmanuel Macron. Parce que c'est à ça aussi qu'on assiste. Normalement, le directeur de cabinet, il est là pour protéger en permanence le président de la République, et la manière dont il en parle là, en disant que finalement ce personnage-là était très peu recommandable, il était peut-être très peu recommandable, mais enfin il était quand même un de leurs employés.
Audrey Gautard, est-ce qu'aujourd'hui Alexandre Benalla bénéficierait, pour prolonger la réflexion de Jean-Sébastien Ferjou, d'une forme de protection élyséenne de la part du chef de l'État, notamment implicite après son éviction?
Ce feuilleton montre, et c'est toutes ces auditions, je trouve, montrent plutôt un amateurisme qu'un complot pour protéger ou pour continuer à maintenir une relation avec Alexandre Benalla. Ce qu'on voit là, surtout, c'est une grande désorganisation. Et d'ailleurs, le risque de feuilletonner, comme c'est le cas aujourd'hui, ça banalise, si vous voulez, même l'affaire. C'est pas, on se rend compte qu'on est pour le moment pas sur une affaire d'État. On est sur de vrais dysfonctionnements de cabinet, mais pas sur une affaire d'État. D'où d'ailleurs les embrouilles à mini au niveau des ministres. On sent que les ministres mélangent dans les fiches préparées par leurs conseillers, n'ont pas du tout participé à ce scénario et sont là à essayer d'essuyer les plâtres et de régler la situation.
Julien Bisson, nous sommes en pleine crise des gilets jaunes. Cela se continue, évidemment. Le président de la République, on va y venir tout à l'heure, a donc dû faire pendant 6 heures devant les maires réunis en Normandie hier, et soudain l'affaire Benalla revient sur le tapis. Est-ce qu'il y a une forme de préjudice, notamment à l'égard de l'image du président de la République aujourd'hui?
Je pense qu'en tout cas il se serait bien passé de ce retour de l'affaire Benalla après ce grand oral de 7 heures hier en Normandie. Il s'attendait à ce qu'on reste sur cet oral-là et moins sur l'oral de ses ministres pour parler de l'affaire Benalla. C'est certain que ça va continuer à laisser une trace dans l'opinion, d'un amateurisme dont il se serait bien passé aujourd'hui.
Pascal Tournier, est-ce que le président président doit se positionner là-dessus, se tenir éloigné de cette affaire, l'enjamber, si je puis dire.
Il y a un sujet qui n'a toujours pas été réglé et qui avait été d'ailleurs révélé par l'affaire Benalla cet été, c'est la question de la réorganisation des services de l'Élysée. On l'attend toujours, cette réorganisation, elle avait été annoncée, vous souvenez-vous, donc cet été, il y a eu quelques changements, mais qui sont restés très cosmétiques. Il y a des départs qui sont annoncés, mais il y a un départ au directeur de la communication, il y en a d'autres dans l'entourage proche de d'Emmanuel Macron, mais pour le moment, tout ça reste, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on dit qu'un tel va partir, mais il n'est toujours pas parti. Donc voilà, on attend cette réforme des services de l'Élysée, enfin, on attend, je ne sais pas si on attend, enfin, en tout cas, elle avait été annoncée, elle n'est toujours pas faite.
Jean-Sébastien Ferjou, sur cette question, il y a une forme d'attentisme, il y a d'autres priorités peut-être sur la table pour le président de la République ?
En tout cas, il y a tellement d'amateurisme que ça finit par attirer l'attention, non pas tant sur ce défaut d'organisation que sur ce qu'il pourrait y avoir derrière. Parce que quand même, M. Strozza, qui là aujourd'hui dit « Oh là là, on en découvre tous les jours », il a envoyé une lettre au procureur de la République au mois de décembre, se posant des questions sur les activités qu'aurait pu exercer Alexandre Benalla, alors même qu'il était salarié de l'Élysée, sur des missions, de la même manière qu'on peut aussi se poser la question de pourquoi Alexandre Benalla fréquente des chefs d'État étrangers, si ce n'est parce que les chefs d'État étrangers voient en lui un maillon avec Emmanuel Macron. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même peut-être un autre version, c'est que peut-être ces gens-là font-ils le choix, qui doit pas être facile à avaler, d'avoir l'air incompétent ou amateur, pour mieux masquer une réalité qui serait peut-être un peu plus trouble.
Audrey Goutard, et pour conclure sur cette affaire, hein, qui est toujours en cours finalement, c'est un vrai feuilleton, lundi prochain donc essentiellement Alexandre Benalla auditionné devant les mêmes sénateurs, on a envie de dire, est-ce qu'on va croire ce qu'il va nous raconter une fois de plus ?
En tout cas, c'est remettre une pièce dans la machine, et après, effectivement... C'est ce que je vous disais, Alexandre Benalla passe de plus en plus comme un renard dans un poulailler. Donc là maintenant, il va certainement avoir d'autres arguments. Il a déjà fait fuiter le fait que il avait peu de responsabilités dans cette affaire et il n'avait fait qu'occuper le terrain qu'on le laissait occuper. Et je pense que la semaine prochaine, c'est ce qui apparaîtra, à moins de rebondissements spectaculaires que craignent certainement l'Élysée. Ça ne veut pas dire, moi je suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Sébastien Ferjou, ça ne veut pas dire qu'il y a un complot derrière, une affaire derrière.
Pas un complot. Des questions réellement. Alexandre Benalla fréquente quand même un certain nombre de personnalités, que ce soit M. Djoury, que ce soit cet homme d'affaires syrien.
Que ce soit cet homme d'affaires syrien.
Est-ce que c'est à la demande de l'Élysée ou pas, à un certain nombre d'escroqueries. Tous ces gens-là ne voient pas Alexandre Benalla juste parce que il est chômeur et séduisant. Ils le voient parce qu'il a été proche du président de la République.
Conclusion,
d'une certaine manière, il est encore.
Là-dessus, je suis d'accord avec lui.
Allez, 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
L'après Carlos Ghosn chez Renault se dessine. Le ministre de l'économie demande la convocation d'un conseil d'administration du groupe dans les prochains jours. Il s'agira alors de désigner un successeur à l'actuel PDG du constructeur automobile, toujours détenu au Japon. Il y a été arrêté le 19 novembre pour malversation financière. Le ministre de l'Intérieur sur la défensive, il ne pouvait pas techniquement empêcher Alexandre Benalla d'utiliser ses passeports diplomatiques. Christophe Castaner l'a dit aujourd'hui devant le Sénat où il était entendu sur les agissements de l'ancien chargé de mission de l'Élysée depuis son licenciement. La première ministre britannique Theresa May est confrontée à une motion de censure contre son gouvernement. Elle a été votée ce soir après son dépôt par les travaillistes et elle vient d'être rejetée. Elle faisait suite au rejet hier par les députés de l'accord sur le Brexit. Ils ont agi en représailles au transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Les islamistes radicaux somaliens Shebab expliquent aujourd'hui leur attaque d'un complexe hôtelier de Nairobi. Les 5 assaillants sont morts, il y a au moins 21 autres victimes selon un tout dernier bilan.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Merci à vous Thomas Benesch. Donc motion de censure rejetée par 20 voix d'écart comme vous le disiez et Theresa May qui reste donc première ministre britannique. Alors ils sont régulièrement dénoncés par les gilets jaunes, les lanceurs de balles de défense, les LBD, il va falloir s'habituer à cet acronyme, qui ont succédé au flashball, ont provoqué de nombreux blessés, parfois gravement touchés au visage depuis le début du conflit démarré il y a 2 mois. Éric Morvan, le directeur directeur de la police nationale dans une note que s'est procurée France 3 a rappelé aux policiers les conditions d'utilisation de ces armes non létales lors des affrontements avec les gilets jaunes. Explication.
Depuis le mois de novembre, 40 blessés au moins l'ont été à cause du flashball ou de son successeur, le LBD-40. Certains ont même perdu l'usage de leur œil. Alors pourquoi un tel bilan ? Selon ce journaliste, spécialiste du maintien de l'ordre, les consignes d'usage de ces armes ne sont parfois pas respectées.
Des exemples, il y en a tous les samedis. Toutes ces blessures au-dessus des épaules sortent du cadre de la loi. La doctrine est extrêmement ferme là-dessus. C'est interdit. Les policiers ont ordre de ne pas viser les visages, les nuques. Les policiers le font.
Alors Audrey Goutard, LBD 40, parce que je crois que ce sont des munitions semi-rigides, hein, on est un petit peu technique, de 40 mm. Ce sont des armes qui peuvent être dangereuses quand elles sont mal utilisées, c'est ça l'idée?
Alors l'idée c'est ça, effectivement. Alors à la différence des flashballs qui étaient utilisés auparavant, le LBD 40 a un viseur, donc en principe on peut bien viser, mais néanmoins effectivement c'est une arme extrêmement puissante qui a une portée jusqu'à 50 mètres. En revanche, et comme le disait ce monsieur, il est interdit de s'en servir à moins de 10 mètres et évidemment au niveau des visages. Le problème, si vous voulez, c'est que dans ces manifestations que l'on a vues, etc., tous les policiers qui se sont servis de cette arme ne sont pas obligatoirement des CRS ou des gendarmes mobiles habitués à s'en servir. Il y a eu aussi des renforts de policiers de commissariats de quartier qui, eux, ont visiblement mal utilisé et se sont mal servis de ces armes.
Jean-Sébastien Ferjou, on peut parler de réponse excessive sur le terrain?
Oui, je crois que le gouvernement a fait des choix, et d'ailleurs la haute hiérarchie policière s'en émeut depuis le mois de décembre dernier, tout comme les militaires avaient sèchement refusé au gouvernement d'intervenir dans les rues de Paris en disant que précisément ça aurait été très dangereux et le meilleur moyen d'aller au dérapage. Donc oui, il y a eu délibérément une volonté de répression extrêmement sévère. Certains syndicats de policiers commencent maintenant à le dire publiquement, et effectivement, il y a à la fois les ordres qui sont donnés, et il y a ce que disait Audrey, il y a des gens qui sont très bien formés au maintien de l'ordre. Il faut quand même rappeler que les policiers français, de manière générale, font preuve d'un grand sang-froid. Il n'y a pas eu de mort dans beaucoup d'autres pays avec la violence des manifestations qu'on a pu... Il y a eu incontestablement des blessés graves, mais malgré tout, globalement, la France sait y faire en matière de maintien de l'ordre. Là, on n'a pas suffisamment fait attention à qui on demandait, effectivement, ou à qui on permettait d'utiliser les armes en question, qui, faut le rappeler, ne sont autorisées dans aucun autre pays au monde.
Pascal Tournier, le défenseur des droits, Jacques Toubon, a reçu 25 saisines, hein, dont certaines collectives depuis le début de la contestation. 12 de ces saisines évoquent l'utilisation de ces balles de défense. Est-ce qu'il faut interdire ces armes, au fond?
C'est la seule question. Je rejoins Audrey et Jean-Sébastien Ferjou. Il y a un problème, parfois, de formation des policiers qui ne sont pas effectivement très au fait de ce genre d'armes. Il y a aussi, il faut reconnaître aussi, une fatigue quand même des forces de l'ordre. C'est quand même toutes les semaines, c'est un peu le nouveau match entre, d'un côté, on attend le match entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes. Donc il y a quand même une fatigue accumulée, ce qui n'excuse pas les actes, hein, mais en tout cas, il faut juste avoir ça en tête. Et il est sûr aussi, et le sujet monte aujourd'hui, parce qu'effectivement, on voit bien, il y a quand même un nombre de blessés
conséquent.
C'est un vrai sujet et qui a été, c'est vrai, je pense que là, pour le coup, autant je saluais le travail des médias par rapport à l'affaire Benalla, là, je pense qu'il y a eu un retard un peu de la part des médias de rendre compte de ces blessures côté...
Ça a été fait quand même.
Ça a été fait, oui, mais ça a été fait.
Dufresne, notamment.
Oui, bien sûr, ça a été fait, mais c'était fait un tout. Il y a eu un petit temps de retard, je pense, qu'il est bien de rappeler aujourd'hui.
Julien Bisson, je répète ma question. Est-ce qu'on peut parler de réponse excessive? Je parle de l'utilisation de ces armes ou bien les... C'est facile d'en parler là au calme sur un plateau de télé le soir, bien tranquillement, ou bien les policiers, il faut le comprendre, sont confrontés à des situations souvent extrêmes.
L'idée n'est pas de porter le blâme sur les policiers individuellement, qui sont en effet placés dans ces situations-là. Mais comme le rappelait Jean-Sébastien, les lanceurs de balles de défense, la France est le seul pays au monde à les autoriser. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, n'avait pas attendu la manifestation des Gilets jaunes pour dire que leur utilisation était dangereuse et souvent disponible. disproportionnée par rapport au risque. Donc la question même de leur interdiction quand même doit se poser. Mmh. On parle de blessés, donc c'est 2000 blessés en général, 100 blessés graves chez les manifestants. On parle d'une quinzaine des nucléations, des mains arrachées. Donc il y a quand même véritablement des blessures qui sont des blessures quasiment de guerre et qui doivent quand même véritablement nous interroger sur la pertinence de ces lanceurs à balles de défense, des micro-grenades à TNT qui ne sont pas forcément utilisées comme on dit dans les autres pays. Il n'y a pas pour autant plus de débordements.
Quelques secondes, Audrey Goutard.
Oui, il y a un point sur lequel il faudra s'interroger aussi, c'est de voir que finalement ces manifestations avaient peu de manifestants et il y a énormément de blessés, alors que d'autres manifestations qui ont pu réunir 50 à 100 000 personnes n'ont pas suscité autant de blessures. Donc il y a quand même eu un problème de doctrine et d'ordre.
Et puis il y a un autre sujet qui va monter, qui est la sévérité de la répression. Allez. Oui, mais vous verrez que la prochaine question qui va se poser au gouvernement, parce
Rendez-vous
que c'est perturbant du point de vue de l'état de droit.
Dans quelques minutes, pour la suite des informés de France Info, nous évoquerons notamment les 80 km/h sur route. À tout de suite.
Mémoire, attention, concentration, sommeil. Que révèlent les sciences du cerveau aujourd'hui ? France Inter et La Massif vous proposent un cycle de conférences autour du cerveau, animé par Mathieu Vidard et Lionel Nakache.
Prochain rendez-vous le mardi 5 février à 20h pour comprendre les mécanismes de notre attention et de notre concentration.
En direct dans les salles de cinéma partout en France. Informations et réservations sur franceinter.fr. France Inter, une radio de Radio France.
En partenariat avec La Massif.
Massif, essentiel pour moi.
Je m'appelle Caroline Métro et je recrute avec LinkedIn Jobs. Nomade Education développe des apps gratuites pour collégiens, lycéens et étudiants. J'ai posté sur LinkedIn Jobs pour recruter un développeur mobile et j'ai trouvé la candidate idéale, Christine. Elle a une grande expérience en développement d'interface et nous partageons la même ambition, faire grandir l'éducation en France.
LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com/publier. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com/publier.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt. 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés partout en France.
Les prévisions avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
La perturbation pluvieuse qui s'infiltre sur le nord-ouest s'étendra demain matin entre les Pyrénées, Auvergne-Rhône-Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace, avec de la neige des 700 à 1000 mètres d'altitude, puis se cantonnera demain après-midi entre le Jura et les Alpes. À l'arrière, le temps sera plus changeant, globalement nuageux avec même quelques risques d'averses, mais tout de même de belles éclaircies près de l'Atlantique. Des averses plus marquées sont attendues entre le Nord-Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais et les Ardennes, avec même des giboulées localement orageuses. Une autre zone d'averse va se mettre en place sur la Nouvelle-Aquitaine, gagnant jusqu'au Berry et à l'Auvergne demain après-midi en devenant plus active. En Normandie et Poitou-Charentais, autour du golfe du Lion, le ciel va s'éclaircir demain après-midi. Enfin, en Corse et en Provence, la journée sera nuageuse avec même quelques gouttes de pluie par endroit. Côté température, les maximales amorceront une baisse atteignant 5 à 11 degrés, mais quand même 11 à 16 degrés autour de la Méditerranée.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Martin Bartoletti.
Bonsoir. Theresa May, touchée mais pas encore coulée sur fond de Brexit. La première ministre britannique et son gouvernement survivent à la motion de censure déposée par le Parti travailliste. Les parlementaires viennent de voter. Antoine Gignot, vous êtes à Londres pour France Info. Sans surprise, cette motion ne passe pas et Theresa May limite la casse.
Oui, c'est une petite majorité, 19 voix, mais une majorité suffisante. La première ministre reste en place et sauve la face. Elle fait tout de même profil bas. Je vais organiser, dit-elle, des rendez-vous avec tous les responsables politiques pour tenir la promesse que nous avons faite aux Britanniques. Nous devons, dit-elle, trouver une solution ensemble pour le Brexit. Et Theresa May précise, je suis prête à travailler avec tous les membres de cette assemblée. Pas sûr, en revanche, que tous soient prêts à collaborer avec elle. Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, pose déjà des conditions. Avant qu'une quelconque discussion puisse s'ouvrir, le gouvernement, dit-il, doit s'engager à écarter définitivement la perspective d'une sortie de l'Union européenne sans accord. Même demande de la part des libéraux-démocrates. Les Écossais, eux, demandent un report de la date de sortie de l'Union européenne et un second référendum. Autrement dit, on est encore loin de trouver un terrain d'entente entre eux les différents groupes politiques.
Antoine Gignot à Londres pour France Info. Le bilan grimpe à 21 morts après l'attaque d'hier dans un complexe hôtelier de Nairobi au Kenya. attentat revendiqué par les islamistes radicaux somaliens des Shebab qui expliquent ce soir avoir agi en représailles au transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. L'État lâche définitivement Carlos Ghosn. Bruno Le Maire demande la désignation d'un successeur à la tête de Renault. Le ministre de l'Économie confirme avoir convoqué une réunion du conseil d'administration de la marque aux losanges dans les prochains jours. Carlos Ghosn est toujours PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Il est en détention au Japon pour fraude fiscale depuis le 19 novembre. Le chef de cabinet d'Emmanuel Macron livre de nouveaux éléments dans l'affaire Benalla. Patrick Strauda, entendu aujourd'hui par la commission des lois du Sénat. Selon lui, l'ex-collaborateur du président aurait eu recours à de faux documents pour obtenir l'un de ses passeports diplomatiques. Des passeports qu'il aurait utilisé une vingtaine de fois depuis son licenciement en juillet dernier. 32e de finale de Coupe de France, toujours 0-0 entre Grenoble et Strasbourg. 20h33 sur France Info, la suite des informés.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info, avec Pascale Tournier, rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire La Vie, avec Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur d'Atlantico.fr, et avec Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1 Hebdo et de la revue America, voilà pour les présentations. Nous l'évoquions dès hier soir sur ce plateau. Le gouvernement doit-il attendre 2 années, comme pour la réforme de l'ISF d'ailleurs, les évaluations sur le passage de la vitesse à 80 km/h sur les routes, ou bien peut-il, ça et là, procéder à quelques ajustements au gré des demandes des élus locaux. Emmanuel Macron, lors de son marathon hier devant les 600 maires réunis dans la localité normande de Bourterould, a semblé ouvrir la voie, sous condition, à de possibles aménagements.
L'objectif, c'est de réduire le nombre de morts sur les routes. Personne ne peut être contre. Bon, il y a des propositions qui ont été faites par le gouvernement. On voit bien qu'il y a une bronca. Est-ce qu'il faut dire faut tout arrêter? Franchement, non. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit mieux accepté, plus intelligent? Sans doute oui. Dire on pense qu'on a des propositions plus intelligentes, mieux acceptables pour la population et qui seraient tout aussi efficaces. Parce que nous, on sait quel est le tronçon qui est dangereux, quel est celui qui ne l'est pas ou autre. À mon avis, peut-être qu'on peut y arriver.
Pascale Tournier, il a ouvert une brèche à le président de la République.
Écoutez, oui, on sait que c'était plutôt une proposition de, enfin plutôt une idée de, au départ d'Edouard Philippe. Là, effectivement, il a ouvert une brèche. Alors, en même temps, au sein de la majorité, il y avait déjà des dissensions. Souvenez-vous, Gérard Collomb déjà avait manifesté son désaccord face à cette mesure. Ça donne le sentiment finalement que autant sur l'ISF, on l'a bien vu, les portes étaient plutôt fermées, voire cadenassées. Donc là, c'est une façon de lâcher un peu du lest, une proposition en plus qui est vraiment de proximité. Faut aussi se rappeler quand même que la crise des Gilets jaunes est partie sur la question de la taxe des carburants, donc sur la question de la mobilité. Voilà, donc je pense que c'est une façon de...
Donner un petit peu de dégage, un petit peu de mou dans le conflit. Julien Bisson, Christophe Castaner, la veille, l'Assemblée nationale avait rappelé qu'il y aurait l'évaluation sous 2 ans et soudain le chef de l'État modifie la règle le soir même finalement.
Oui, c'était prévu sous 2 ans à partir du 1er juillet 2018, donc au 1er juillet 2020. Il en avait toujours dit jusque-là que le nombre de morts en moins serait un peu l'indicateur clé selon pour évaluer cette mesure. Or, on attend encore, je crois, à la fin du mois, le nombre de morts pour 2018. Donc, c'est un petit peu prendre de court cette annonce. On sait que pour novembre 2017, on était déjà à peu près à 200 morts en moins sur l'année. C'est 200 morts moins violentes, c'est quand même beaucoup. Mais c'est vrai que, comme on l'a rappelé Pascal, ça ne coûte pas très cher politiquement à Emmanuel Macron de se désolidariser d'Edouard Philippe. Il avait déjà dit plusieurs fois en off que lui-même n'était pas forcément le plus grand... n'était pas très fervent pour cette
partisan
mesure.
De la mesure. Oui,
donc, oui. Politiquement, c'est plutôt... Ça ne coûte pas personnellement.
Audrey Goutard, il y a quand même un petit sujet qui s'appelle la prévention routière.
Oui, c'est vrai, mais néanmoins, souvenez-vous que c'est avec cette mesure que Emmanuel Macron avait commencé à décrocher vraiment dans les sondages. Ça avait été vraiment un instant T, un moment précis où effectivement lui et son gouvernement avaient commencé à dégringoler. Donc c'est évidemment une mesure extrêmement symbolique et Lorsqu'on entend ou qu'on voit ce que vous venez de montrer, la vidéo que vous venez de montrer, c'est intéressant de voir que lorsque les gens sont face à face et que tout est incarné, qu'il y a des visages, les mères, etc., il est beaucoup plus facile d'avoir du bon sens et d'entendre ce qu'on est.
Ce serait du bon sens que de faire des ajustements à la carte.
Oui, alors je sais que la sécurité routière est extrêmement arc-boutée face à cette mesure, mais néanmoins, une mesure, si elle n'est pas appliquée, parce qu'effectivement, elle n'est pas comprise, ça ne sert à rien. Donc, à partir du moment où on enlève le sentimentalisme et le côté, effectivement, combat politique, et qu'on revient sur du pragmatisme, c'est-à-dire qu'évidemment que les 80 km/h, c'est quand même une mesure intéressante en matière de sécurité routière, on revient à l'essentiel, et là, ça devient intéressant.
Jean-Sébastien Ferjou, pas question de faire de la politiquelle, comme disent les Italiens, avec des questions aussi sérieuses que la sécurité routière, mais tout de même, là, le président de la République, quelque part, repousse, rejette ce combat qu'a mené son Premier ministre.
Oui, mais parce que le combat a été malmené depuis le départ, parce que le Premier ministre a décrété que, selon lui, sans que personne n'ait vraiment les moyens de le vérifier, c'était un moyen de faire chuter la mortalité routière sur les routes. Mais on sait que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, la mortalité sur les routes. Ça dépend de la dangerosité du réseau routier, ça dépend de l'état d'entretien des véhicules, enfin de la météo, d'un certain nombre de choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut du temps avant de pouvoir mesurer les statistiques, parce que s'il y a un mois d'août où il fait bien meilleur que le mois d'août précédent, vous pouvez pas mesurer sur un seul mois. Réellement, ça se joue de cette manière-là. Donc, c'était de la très mauvaise gouvernance, parce que il aurait fallu faire des tests. Il y avait des tests qui étaient en cours dans certains départements.
Donc sur des zones bien définies.
Comme la Drôme. Ben oui, mais c'est comme ça que ça marche. Il y a des routes où c'est très dangereux de rouler à 80 km/h d'ailleurs, et d'autres où on peut se permettre de rouler un peu plus vite sans que ça pose nécessairement
danger.
Mais à mon sens, c'est quand même trop tard et trop peu. C'est un peu en permanence le danger politique qui guette le gouvernement dans sa manière de gérer la crise des Gilets jaunes, parce que la revendication, même si les Gilets jaunes, ça les satisfait, et même si cette mesure-là, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, a été l'un des déclencheurs du conflit, maintenant, le conflit, il porte sur autre chose, et d'une certaine manière, en mettant l'accent sur des choses qui, finalement, c'est pas ça qui va changer la feuille de paille des Français à la fin du mois, et c'est devenu une revendication centrale.
Ce qui est quand même assez intéressant, je suis assez d'accord, ça n'a pas changé la feuille de paye des Gilets jaunes, mais symboliquement, elle est assez forte parce que c'est quand même effectivement typiquement la mesure qui a été décidée d'en haut et qui donc doit s'appliquer en bas sans tenir compte de la réalité du terrain.
Il y a un côté
de
verticalité.
Voilà, et je pense que de ce point de vue-là, et c'est sans doute pour cela
qu'il fait in fine comme avec les maires, comme l'exercice avec les maires, il fait in fine ce qu'il aurait dû faire.
Pascal Tournier,
oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je trouve quand même de d'émettre la possibilité de revenir. En tout cas, d'adapter en fonction de la réalité du terrain, je trouve de la part d'Emmanuel Macron assez malin, enfin en tout cas intéressant politiquement, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il essaie de renouer le contact avec la proximité, la réalité du terrain. Et donc là, c'est tout à fait emblématique.
Nous verrons bien si il y aura des ajustements donc à la carte, comme l'a semblé le dire hier soir le président de la République. En tous les cas, l'évaluation sera maintenue en ce qui concerne l'impôt sur la fortune. 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Les jours de Carlos Ghosn à la tête de Renault sont comptés. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demande aujourd'hui la convocation rapide d'un conseil d'administration du constructeur automobile. Il s'agira de trouver un successeur au PDG de la marque aux losanges, incarcéré depuis novembre au Japon pour malversation financière. Le directeur de cabinet du président de la République met en cause Alexandre Benalla. Selon Patrick Strauda, l'ex-chargé de mission à l'Élysée a produit un faux afin d'obtenir un passeport de service. Ce document qui permet de voyager sans demande de visa. Patrick Strauda faisait partie des personnes auditionnées aujourd'hui au Sénat pour s'expliquer sur les faits et gestes d'Alexandre Benalla depuis son licenciement. Un hommage rendu demain matin aux deux pompiers morts lors de l'explosion d'une boulangerie de la rue de Trévise à Paris. La cérémonie aura lieu caserne de Champéré au siège de l'état-major des sapeurs-pompiers de la capitale. Proches des victimes, ministres de l'Intérieur seront présents. La première ministre britannique Theresa May reste en poste. Elle échappe de peu ce soir à la motion de défiance déposée contre elle et son gouvernement par les travaillistes. 19 voix d'écart seulement entre ses soutiens et ses détracteurs.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Emmanuel Macron a-t-il renoué le dialogue avec les Français? Son marathon, en tous les cas, durant plus de 6 heures hier, a été largement commenté, évidemment, à l'image, tiens, de Christian Jacob, président du groupe les Républicains à l'Assemblée nationale. À mi-chemin, vous allez l'entendre entre éloges et critiques. C'était ce matin sur Europe 1.
Est-ce que le président est capable de faire le show? La réponse est oui. Est-ce qu'il est capable de porter des réformes de structure pour le pays? La réponse est clairement non. C'est 2 ans de perdu. Il nous refait ce qu'il a fait pendant la campagne des présidentielles. Et encore une fois, je conteste pas qu'il le fait avec un certain talent. Mais tout cela, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire après?
Julien Bisson, comment apprécier cette prestation hier, plus de 6 heures, hein, c'était quand même plutôt finement joué, avec une connaissance, apparemment une maîtrise de tous les sujets. Que dire de cette prestation du chef de l'État?
Une prestation finement jouée qui rappelle surtout une campagne politique. On a l'impression d'être en pleine campagne 2 ans auparavant pour la présidentielle. Une prestation finement jouée aussi parce que c'était très malin de sa part de s'adresser aux maires de la ruralité, parce que les maires, c'est finalement les seuls élus qui ne sont pas totalement disqualifiés aux yeux des Français, donc qui peuvent être encore les seuls représentants qui ont de la valeur à leurs yeux. Donc c'est intéressant de ce côté-là de leur parler à eux. Après, la question, c'est de savoir est-ce que ça pour autant convaincre les Gilets jaunes de ne pas manifester samedi, de renouer une forme de confiance avec le président. Là, de ce côté-là, ça reste encore à déterminer.
Alors justement, André Goutard, difficile de jauger cet impact de ce show devant les 600 maires d'hier.
Oui, en effet, pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Trop tôt, tout simplement. Il faut attendre effectivement de voir ce que ça donne samedi, puisque en fait on a des étapes, c'est tous les week-ends, tous les samedis de la mobilisation des Gilets jaunes. C'est à ce moment-là que l'on verra si les maires ont répercuté finalement dans les villes de France et dans les villages. C'est là aussi que l'on découvrira un peu ce qu'attendent vraiment les Gilets jaunes et s'ils attendent des mesures réellement concrètes ou une estime de la part du président.
Pascal Tournier, il a voulu se montrer quoi? Il a voulu montrer qu'il était capable soudain de reprendre la main?
Ce que j'ai trouvé très intéressant hier, c'est ces dernières semaines, on l'a vu, on avait une France très éclatée. On me l'a parlé de la théorie des deux Frances. Enfin, en tout cas, ça crée vraiment des lignes de fracture. Enfin, les fractures existent aujourd'hui, mais là, elles étaient vraiment très, très visibles. On a eu un débat hystérique, hystérisé, beaucoup de violence, même verbale. Et j'ai trouvé que pour la première fois, depuis toutes ces longues semaines, on avait en face un dialogue. Alors peut-être que c'est un dialogue qui était peut-être un peu artificiel par certains moments, mais on avait véritablement le sentiment d'une démocratie, enfin d'un dialogue démocratique qui était, je dirais, parfois un peu musclé.
Hein. Les maires artificiels, mais certains maires n'étaient pas tendres non plus.
Hein. Voilà, il y avait quand même effectivement des maires qui se sont exprimés avec, avec leurs mots, ils sont allés au contact, si je puis dire, avec Emmanuel Macron, mais j'ai trouvé que cette image quand même d'un dialogue, quelque part, c'est positif.
Positif, vous dites. Jean-Sébastien Ferjou, tous ces maires réunis, rassemblés 600 dans un gymnase, est-ce que ce n'est pas un peu symboliquement aussi le retour de quelque part d'un corps intermédiaire qui dialoguerait avec le chef de l'État?
Mais si, bien sûr, c'était une image effectivement très intéressante de ce point de vue-là, même si on comprend mal Emmanuel Macron quand dans sa conclusion il dit qu'il faut inventer la République de la délibération permanente, ce qui est une forme de négation finalement de la légitimité des élections et qui produira à peu près les mêmes vices démocratiques et les mêmes biais sociologiques que ce que les primaires ont produit pour les partis. Maintenant, moi, je trouve que l'image effectivement, elle était très intéressante à court terme pour Emmanuel Macron. Mais il y a quand même des défauts qui sont d'ores et déjà présents. Le verre est dans le fruit, en quelque sorte. C'est-à-dire que, regardez, il nous montre qu'il est extrêmement brillant, qu'il est capable de répondre à toutes les questions qui se posent dans le pays. Mais précisément, ce qu'on lui demande, ça n'est pas de s'occuper de tout. Ce qu'on lui demande, c'est de savoir aussi déléguer. Et là, en quelque sorte, on voit Emmanuel Macron qui n'a pas forcément compris tout à fait la nature du problème, parce que il semble penser que le problème, c'était lui, ou sa manière de s'adresser aux Français, ou peut-être son manque de pédagogie, ou ce qui a pu être qualifié comme de l'arrogance parfois. Mais le problème, ça n'est pas lui. Lui, c'est la cerise sur le gâteau. Le problème de fond, parce que la crise, elle ne date pas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en quelque sorte, par son style personnel, a hystérisé les choses. Mais le problème, c'est l'accumulation d'une crise politique et de défiance qui ravage la société française depuis 30 ans ou depuis 40 ans. Et à ça, en quelque sorte, il ne répond pas parce qu'il donne l'impression d'être convaincu qu'il va être capable, par son talent personnel, ce que personne ne lui conteste, parce que incontestablement, enfin vraiment, il est capable de répondre à toutes les questions. Mais enfin, il ne répond pas aux questions politiques de fond. Et puis surtout, on peut toujours faire un grand débat national. Il va y avoir des élections européennes. Ouais. Il me semble qu'il y a un certain nombre de choses parmi les revendications des Gilets jaunes qui, justement, dépendent plutôt d'engagements internationaux de la France.
Il faut laisser aussi le temps, peut-être, au débat de démarrer, c'est de ça. Se dérouler. À ce sujet, Audrey Goutard, le chef de l'État remet le couvert, si je puis dire. C'est vendredi à Souillac, c'est entre Brive-la-Gaillarde et Cahors, pour débattre de nouveau avec les maires des 13 départements d'Occitanie. C'est le nouveau nom de la région en question. Vous pensez pas que, quelque part, c'est un peu une redite, un peu risquée après le succès de ce qui s'est produit hier, parce qu'il va falloir qu'il fasse presque mieux.
On sent qu'il y prend goût, on sent que c'est un exercice qui lui convient. Et puis, je voudrais rebondir sur une phrase qu'il a dit au début de son intervention. Ouais. Il dit quand on a la légitimité, on a l'impression que tout est bon, ça y est, on peut y aller, et que. En fait, il explique qu'il s'est rendu compte que cette légitimité, il fallait être capable de la remettre en question et d'associer les autres. En fait, on comprend lorsqu'on l'entend il parle avec une certaine sincérité, on comprend qu'au départ, il a pensé qu'être président de la République, c'était j'ai un programme, maintenant je l'applique et puis basta. Chacun se débrouille doit me suivre. Et là, il est en train de comprendre qu'effectivement, c'est pas si simple et que la gouvernance aujourd'hui, c'est pas avec les réseaux sociaux, avec les gilets jaunes, etc., il faut associer les autres. Et donc, retourner vendredi pour discuter encore, c'est une...
Pour vous, ce n'est pas excessif. Il y a une prise de conscience, mais n'est pas un coup de trop.
Ça correspond à ce que demandent les Français depuis des années.
Oui, il y aura 10 de déplacements en tout. Hein.
Déplacements, effectivement.
Le but, c'est de rencontrer tous les maires.
C'est un tour de France, tous les maires.
Julien Bisson, vous ne craignez pas que le chef de l'État, finalement, préempte le débat?
Oui, c'est ça. C'est quand même au risque de préempter le débat et de faire en sorte que ce débat ne soit finalement qu'un débat entre le président et, en l'occurrence, pour l'instant, les élus de la nation, que sont les maires. Et donc, de tenir quand même à distance les Français. On est assez loin quand même de ce qui était promis au départ, c'est-à-dire un débat entre les Français que le président pourrait arbitrer. Là, aujourd'hui, on est véritablement dans une personnalisation du débat. Et je ne suis pas tout à fait certain que ce soit ce que les Français attendent.
Pascal Tournier, est-ce que ce grand débat va devoir redéfinir des grandes questions comme la fiscalité, comme, je ne sais pas moi, les institutions? Est-ce que ça peut aller très loin, selon vous?
Alors, on verra déjà vendredi.
Est-ce que ça doit aller très loin?
Ce qui est sûr, c'est qu'on va voir déjà vendredi, si par rapport aux sujets qui ont été mis sur la table hier, on va retrouver les mêmes sujets. Est-ce qu'il va y avoir des différences régionales, territoriales qui vont s'exprimer? Ensuite, on voit bien, là je pense que la part du gouvernement, la volonté d'aller sur le champ institutionnel, parce que ça va peut-être, on le sait, il y a une réforme institutionnelle en cours, donc on sent bien qu'il y a une volonté de la part du gouvernement de faire peut-être valider par les Français, par le biais du débat, justement la question institutionnelle. Ensuite, fondamentalement...
Est-ce que, pour terminer,
c'est que je pense que la crise des Gilets jaunes a montré que c'était une question de pouvoir d'achat. Et là, les sujets qui ont été mis, notamment dans le cadre de cette lettre, je ne pense pas que ça va résoudre la question.
Vous pensez que ça n'aborde pas le fond du problème? Audrey Goutard, là-dessus,
conclusion. Il y a quatre thèmes sur la table. Le pouvoir d'achat, la fiscalité, la démocratie et l'environnement. Donc, obligatoirement, ces thèmes vont être tous... Enfin, je comprends que les thèmes vont tous être abordés dans le cadre, justement, de ces échanges et ensuite de la consultation qui est prévue.
Ah, c'est vrai qu'en tous les cas, 2 mois de débat et une dizaine de déplacements,
dix déplacements
présidentiels, nous aurons largement l'occasion d'y revenir dans les semaines qui s'annonce. Allez, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
L'État français lâche Carlos Ghosn. Le ministre de l'Économie réclame la convocation dans les prochains jours d'un conseil d'administration de Renault. Au menu, la nomination d'un remplaçant du PDG de la marque aux losanges. Carlos Ghosn est détenu au Japon depuis son interpellation le 19 novembre dernier pour malversation financière. Combien de fois Alexandre Benalla a-t-il utilisé ses passeports diplomatiques après son licenciement de l'Élysée? Une 20aine de fois, estime Patrick Strauda, le directeur de cabinet du président de la République. Il était auditionné aujourd'hui au Sénat sur les agissement d'Alexandre Benalla depuis son départ du palais. Dans l'affaire des primes en liquide de la place Beauvau, peine confirmée aujourd'hui pour Claude Guéant. Il écope d'un an de prison ferme après le rejet de son pourvoi en cassation. Lorsqu'il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à l'intérieur, il avait pioché dans l'enveloppe destinée aux frais de surveillance des policiers pour gonfler son salaire, ainsi que ceux de membres de son équipe. Theresa May souhaite rencontrer dès ce soir les dirigeants d'opposition pour discuter du Brexit. La première ministre britannique est sortie vainqueur il y a quelques minutes à peine d'un vote de défiance déposé par les travaillistes contre son gouvernement. Il faisait suite au rejet hier par les députés de l'accord sur le Brexit.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Voilà, Thomas Bénèche a installé donc ce sujet, hein, la chute de Carlos Ghosn, avec Bruno Le Maire ce soir, qui demande la convocation d'un conseil d'administration du groupe Renault dans les prochains jours et le remplacement inéluctablement. Jean-Sébastien Ferjou de Carlos Ghosn, c'était chronique d'une fin annoncée, non ?
Oui, de toute façon, il était très compliqué dans la mesure où les Japonais ont affiché clairement qu'ils ne voulaient plus de Carlos Ghosn, de continuer avec l'hypothèse d'un Carlos Ghosn. La raison pour laquelle les Français, que ce soit Renault ou que ce soit le gouvernement, ne l'ont pas montré, c'était pour avoir le temps de trouver déjà des solutions alternatives et puis de négocier aussi, parce qu'il y a un vrai rapport de force. Le directeur de cabinet de Monsieur Le Maire est à Tokyo aujourd'hui. Il y a quand même plusieurs sujets qui dépassent le nom du successeur de Carlos Ghosn. C'est-à-dire que la disparition en quelque sorte, ou l'empêchement de Carlos Ghosn provoque des tas de renégociations sur la valorisation des parts de Renault dans Nissan et réciproquement, ouais. Parce que l'affaire, elle vient quand même de là. Tout ça part de 2015, quand Emmanuel Macron a voulu faire un aller-retour boursier pour pouvoir permettre de doubler les droits de vote de l'actionnaire français, ce que les Japonais n'ont absolument pas apprécié, mais la culture japonaise étant ce qu'elle est, ils ne l'ont pas nécessairement dit haut et fort à l'époque, on en paye le prix maintenant. Donc là, il faut réparer les pots cassés et essayer de sauver cet ensemble industriel, parce que des candidats capables, on évoque le nom de Monsieur Sénard, mais des candidats capables de remplacer Carlos Ghosn et de réussir à développer de manière industrielle, comme il l'a fait les deux marques, on n'en trouve pas à tous les coins de rue.
Audrey Goutard, le Japon également avec son régime de détention extrême pour l'image d'un Carlos Ghosn, c'est quelque chose de terrible.
Il est
incarcéré depuis le 19 novembre.
Effectivement. Et alors, je lisais un article dans les Échos aujourd'hui sur ces informations distillées petit à petit sur son train de vie, le fait qu'il soit soupçonné d'avoir fait embaucher sa belle-sœur, le fait qu'il ait fait payer son abonnement de yacht au Brésil, etc., par la boîte, etc. Et ces informations sortent petit à petit. Elles sont évidemment pas vérifiées pour l'instant, enfin vérifiables en tout cas pour le moment, mais les autorités japonaises, policières japonaises, distillent ces informations. Alors après, si ces faits sont avérés...
Il n'y a pas que des pauvres qui déconnent, il y aurait aussi des riches qui déconnent.
Si ces faits sont avérés, personne ne se plaindra plus du fait que M. Ghosn ait été de façon juridique et tout à fait dans légal mis en examen pendant aussi... Enfin, pardon, placé en garde à vue pendant aussi longtemps. Si les faits sont avérés, plus personne n'en parlera. Donc je ne sais pas. C'est la loi de ce pays et effectivement, les faits semblent assez grave pour motiver son emprisonnement. En France, il serait emprisonné, il serait en détention provisoire. Là, il est en garde à vue, ça s'appelle autrement.
Oui, c'est un autre système, effectivement. Voilà. Julien Bisson, Carlos Ghosn, au fond, bénéficie en France de la présomption d'innocence. C'est ce qui avait été dit par Bruno Le Maire, d'ailleurs, au départ. Mais au fond, c'était une position assez difficile à tenir jusqu'au bout.
Oui, jusqu'au bout, c'est très difficile à tenir parce qu'en effet, pour l'instant, depuis novembre, Renault est face à des défis industriels et qu'on ne peut pas attendre non plus le calendrier judiciaire japonais pour prendre des décisions qui s'imposent. Là, le fait que le gouvernement français, en effet, lâche Carlos Ghosn et cherche dès aujourd'hui peut-être à trouver, sans doute, un successeur à Carlos Ghosn. On parle en effet de Monsieur Sénard, qui est le patron de Michelin, qui quitte la direction de Michelin en mars. C'est à mon avis, en effet, une volonté pour le gouvernement, qui est quand même le premier actionnaire de l'Alliance, d'arriver à résoudre, à mettre quelqu'un aux commandes du navire, ce que le navire n'a plus depuis novembre.
Alors Pascal Tournier, ce feuilleton est égrené, si je puis dire, en pointillé quelque part, mais son dénouement est proche, en pleine crise nationale française des gilets jaunes. Est-ce à dire que on n'a pas encore tout à fait mesuré l'impact de la chute de ce grand patron français, de ce qui ressemble vraisemblablement à des excès au regard de l'opinion française?
Oui, c'est vrai que là on a quand même une actualité qui a été quand même plus que, c'est pas le bon mot, phagocyté. Enfin, en tout cas, les gilets jaunes ont pris le dessus depuis des semaines. Et je pense que cette actualité est restée quand même assez circonscrite, si je puis dire, au milieu économique. Je ne pense pas que l'opinion publique française mesure et en tout cas et soit vraiment peut-être même intéressée par cet épisode, ce feuilleton. Ça reste assez éloigné, je pense, de la majorité des Français. Alors qu'effectivement, je pense qu'il y a un vrai enjeu, bien bien évidemment de politique industrielle, de voilà, c'est quand même aussi créateur d'emploi.
Mais Jean-Sébastien Ferjou, pour poursuivre ce que dit Pascal Tournier, ce feuilleton-là raconte tout de même les histoires les assez étonnantes, vous le rappeliez Audrey Goutard, d'un grand patron qui aura quand même commis quelques excès.
Et bien sûr, mais ça n'est pas le premier. Certains excès étant par ailleurs parfaitement légaux, qu'il s'agisse d'optimisation fiscale, qu'il s'agisse de parachute dorée. Et c'est précisément peut-être ce qu'a oublié dans son équation hier Emmanuel Macron, ou ce qu'il oublie dans ce qu'on a appelé ses petites phrases. Parce que bien souvent, il vise des réalités qui peuvent être justes. Oui, pour rebondir sur ce qu'il disait hier, il y a des gens qui sont dans la pauvreté, qui peuvent être considérés comme responsables au moins pour partie de leur situation. Mais il oublie de dire, et c'est je crois une des clés profondes de la crise des Gilets jaunes, qu'il y a aussi des riches qui abusent et qui en abusent d'autant plus que les règles internationales qu'on a mis en place leur permettent en plus de justement être déterritorialisés, en quelque sorte de pouvoir jongler d'un pays à l'autre. Et donc, mais voilà, effectivement, ce que les Français peut-être peuvent y voir en creux malgré tout. Carlos Ghosn, il a gagné 143 millions d'euros comme salarié, il n'a pas créé l'entreprise, c'est pas quelqu'un qui a risqué quelque chose, même s'il avait un grand talent.
Et dénouement, vraisemblablement, du moins des éléments de dénouement, dimanche prochain, conseil d'administration de Renault. Jean-Sébastien Ferjou, rapidement, la une d'Atlantico.fr.
Mais on revient sur les racines de la crise de la défiance et les raisons pour lesquelles ce ne sont pas exactement celles à laquelle s'attaque Emmanuel Macron.
Julien Bisson, à la une du 1 Hebdo.
Comment écouter le peuple ? On revient sur la crise de la démocratie.
Oui, très intéressant dossier que j'ai feuilleté tout à l'heure au bureau, je l'avoue. Avec vous, Pascal Tournier, que propose La Vie à la une ?
Nous avons fait notre débat. Nous avons fait organisé une rencontre entre Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF, et Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique.
Donc beaucoup de choses à dire, avec un échange
de regards bien différents sur la crise des Gilets jaunes.
Et pour finir, Audrey Goutard, votre invité de l'instant T, allez.
Gilles Verviche, donc un philosophe, auteur de « Peut-on réussir sans effort ni aucun talent », un thème d'actualité.
Allez, merci à tous les quatre. À moi de vous dire à demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info.